Chapitre 3. Je lus en effet plus d'une demi-heure, et jusqu'au moment où je me sentis assez fatigué, de sorte que j'avais déjà jeté le livre sur la table, et j'allais achever de me déshabiller pour me mettre au lit, quand j'entendis quelque bruit dans un petit cabinet attenant à ma chambre, dont la porte n'était même qu'un peu plus d'à moitié poussée. Ce bruit continua, j'en fus ému, et dans mon émotion, je criai « Qui est là ?»« N'ayez point de peur, mademoiselle, » me répondit une voix que je crus reconnaître à travers la frayeur qu'elle me fit. Et aussitôt, je vis paraître l'abbé, qui d'un air riant sortit du cabinet. Je restai quelque temps, les yeux ouverts sur lui, toute saisie, et sans pouvoir lui rien dire. « Ah, mon Dieu, mais que faites-vous là, monsieur ?» lui dis-je ensuite, respirant à peine. « Qui vous a mis ici ?»« Ne craignez rien, me dit-il en s'asseyant hardiment à côté de moi. « Je n'y suis simplement que pour y être. »« Quel est votre dessein ?» poursuivis-je d'un ton de voix plus fort. « Sortez tout à l'heure, » ajoutai-je en me levant pour ouvrir ma porte. Mais comme je vous l'ai dit, la femme de chambre l'avait fermée. Me voilà au désespoir et je voulus ouvrir une fenêtre pour appeler. Non, je vais me retirer dans un moment par l'escalier dérobé, me dit-il en m'arrêtant par le bras. Croyez-moi, point de bruit, tout est couché, tout dort, et quand vos cris feraient venir du monde, tout ce que l'on pourrait penser, c'est que j'aurais voulu abuser du rendez-vous et de l'heure où nous sommes, mais on n'en croira pas moins que je suis ici de votre aveu. « De mon aveu, méchant, un rendez-vous » m'écriai-je. « Oui, me dit-il, en voici la preuve. Lisez votre billet. » Il me montra celui que Madame de Saint-Hermière m'avait fait écrire pour elle. « Ah, l'indigne, l'abominable homme ! Un monstre que vous êtes !» lui dis-je en retombant dans mon fauteuil. « Ah, mon Dieu !» Ma surprise et mes pleurs me coupèrent alors la parole. Je fondis en larmes, je me débattais comme une égarée dans mon fauteuil. Il vit mon état sans s'émouvoir et avec la tranquillité d'un scélérat. Je fus tenté de me jeter sur lui, de le déchirer si je l'avais pu. Et puis tout à coup, par un autre mouvement, je tombai à ses genoux. « Ah, monsieur, lui dis-je, monsieur, pourquoi me perdez-vous? Mais que vous ai-je fait? Souvenez-vous de l'estime qu'on a pour vous. Souvenez-vous du service que je vous ai rendu. Je me suis tue. Je me tairai toute ma vie. » Il me releva, toujours avec le même sang-froid. « Mais quand vous ne vous tairiez pas, vous n'en seriez point cru. Vous passeriez pour une jalouse, me répondit-il. Et vous ne pouvez plus me faire tort. Allez, calmez-vous. Tout ceci va finir, et je vous sers. Je ne veux que vous délivrer d'un mariage qui vous répugne à vous-même et qui allait me ruiner, voilà tout. » Pendant qu'il me tenait ce discours, j'entendis la voix de plusieurs personnes. On ouvrit subitement ma porte, et le premier objet qui me frappa, ce fut M. Baron de Sercourt, accompagné de Madame de Saint-Hermière, tous deux suivis de cet ami qui avait soupé avec nous et qui tenait une épée nue et de trois ou quatre domestiques de la maison qui étaient armés. Le baron et son ami avaient couché au château. Madame de Saint-Hermière les avait retenus sous prétexte qu'ils seraient le lendemain plus près de l'église où l'on devait se rendre de très bon matin. Et cette dame avait ordonné qu'on les éveillât tous deux, leur avait fait dire qu'on l'avait réveillée elle-même pour l'avertir qu'il y avait du bruit dans ma chambre, qu'on y entendait différentes voix, que la vérité, je ne criais point, mais qu'on présumait ou qu'on m'en empêchait ou que je n'osais crier, qu'il y avait apparence que c'était des voleurs et qu'elle conjurait ces messieurs de venir à mon secours et au sien avec ces gens qui étaient tous levés. Voilà pourquoi je les vis tous armés quand ils ouvrirent ma porte. L'abbé, qui savait bien ce qui arriverait, venaient de me remettre dans mon fauteuil et me tenaient encore une main quand ils parurent. Je me retournai avec cet air de désolation que j'avais et le visage tout baigné de pleurs. À cette apparition, je fis un cri de douleur qu'on dut attribuer à la confusion que j'avais de me voir surprise avec l'abbé. Ajoutez à cela que mes larmes dépensaient encore contre moi, car puisque je n'avais appelé personne, d'où pouvait-elle venir, dans les conjectures où j'étais, que de l'affliction d'une amante qui va se séparer de ce qu'elle aime? Je me souviens que l'abbé se leva lui-même d'un air assez honteux. « Quoi, vous, mademoiselle, vous que j'ai cru si vertueuse? Ah, madame, qui se fitera-t-on ? » dit alors M. de Sercourt. Il me fut impossible de répondre. Mes sanglots me suffoquaient. « Pardonnez-moi le chagrin que je vous donne, monsieur, » lui dit alors l'abbé. « Ce n'est que depuis 3 ou 4 jours que je sais l'intérêt que vous prenez à mademoiselle et la nécessité où elle est, dit-elle, de vous épouser. » Et dans le trouble où le jetait ce mariage, elle a souhaité de me voir encore une fois, et c'est une consolation que je n'ai pu lui refuser. J'ai cédé à ses instances, à ses chagrins, au billet que voici, ajouta-t-il en lui faisant lire le peu de mots qu'il contenait. Enfin, monsieur, elle pleurait, elle pleure encore, elle est aimable, et je ne suis qu'un homme. Quoi, ce billet ? M'écriai-je alors, et je m'arrêtai là. Oh, je n'eus pas la force de continuer. Je demeurai sans sentiment dans mon fauteuil. L'abbé s'éclipsa. Il fallait emporter M. de Sercourt qui, me dit-on, se trouva mal aussi et qui ensuite voulut absolument s'en retourner chez lui. À mon égard, revenu à moi par les soins de la complice de l'abbé, je parle de Mme de Saint-Hermière, dont vous avez déjà dû entrevoir la perfidie, et qui se retira dès que je commençai à ouvrir les yeux. En vain demandai-je à lui parler, elle ne revint point, je ne vis que ses femmes. La fièvre me reprit et l'on me transporta dès 6 heures du matin chez M. Villot, encore plus désespéré que malade. Vous jugez bien que mon aventure éclata de toutes parts, de la manière du monde la plus cruelle pour moi. En un mot, elle me déshonora, c'est tout dire. Monsieur le baron et Madame de Saint-Hermienne l'écrivirent à ma mère en lui renvoyant son consentement à notre mariage. Quant au scélérat d'abbé, cette dame, quelques jours après, sut si bien l'excuser auprès de mon oncle qu'elle le réconcilia avec lui. Ce dernier, qui m'aimait, me déchira si crédièdement et gémit de mon prétendu désordre avec des expressions si intéressantes, si malignes et si pieuses, qu'on ne sortait d'auprès de lui que la larme à l'œil sur mon égarement, pendant que, flétri et perdu dans l'esprit de tout le monde, je passais près de 3 semaines à lutter contre la mort, et sans autre ressource, pour ainsi dire, que la charité de M. et Mme Villot, qui me secoururent avec tout le soin imaginable, malgré l'abandon où ma mère, dans sa fureur, leur annonça qu'elle allait me laisser. Ces bonnes gens furent les seuls qui résistèrent au torrent de l'opprobre où je tombais. Non qu'ils me crussent absolument innocente, mais jamais il n'eut moyen de leur persuader que je fusse aussi coupable qu'on le supposait. Cependant, ma fièvre cessa, et ma première attention, dès que je me vis en état de m'expliquer, ce fut de leur raconter tout ce que je savais de mon histoire, et de leur dire les justes soupçons que j'avais, que Madame de Saint-Hermière était de moitié avec le neveu, qu'il croyait un homme de bien, et que je crus devoir démasquer, en leur confiant, sous le sceau du secret, l'aventure de ce misérable avec la religieuse. Il ne leur fallut pas davantage pour achever de les désabuser sur mon compte. Et dès cet instant, ils ne cessèrent de soutenir partout, avec courage, que le public était trompé, qu'on jugeait mal de moi, qu'on le verrait peut-être quelques jours, et ils prophétisaient qu'il était faux que l'abbé fût mon amant et qu'il n'eût jamais osé me parler d'amour, et qu'à la vérité, il était question d'un fait incompréhensible et qui mettait l'apparence contre moi, mais que je n'y avais point d'autre part que d'en avoir été la victime. Oh, ils avaient beau dire, on se moquait d'eux, et je passai 3 mois dans ce désespoir de cet état-là. Je voulus d'abord paraître pour me justifier, dès que je pus sortir, mais on me fuyait. Il était défendu à mes compagnes de m'approcher, et je pris le parti de ne me plus montrer. Confiné dans ma chambre, toujours noyé dans les pleurs, méconnaissable à force d'être chargé, j'implorais le ciel et j'attendais qu'il eût pitié de moi sans oser l'espérer. Il m'exauça, cependant, et fit la grâce à Madame de Saint-Hermière de la punir pour la sauver. Elle était allée rendre visite à une de ses amies. Il avait plu beaucoup la veille, les chemins étaient rompus, et son carrosse versa dans un profond et large fossé dont on ne la retira qu'évanouie et à moitié brisée. On la reporta chez elle. La fièvre se joignit à cet accident qui avait été précédé d'un peu d'indisposition, et elle fut si mal qu'on crut qu'elle n'en échapperait pas. Un ou deux jours avant qu'on désespérât d'elle, une de ses femmes, qui était mariée, prête d'accoucher, qui souffrait beaucoup et qui se vit en danger de mourir, dans la peur qu'elle en eut, se crut obligée de révéler une chose qui me concernait et qui chargeait sa conscience. Elle déclara donc, en présence de témoins, que la veille de mon mariage avec M. de Sercourt, l'abbé lui avait fait présent d'une assez jolie bague pour l'engager à l'introduire sur le soir dans le cabinet de la chambre où je devais coucher. Je répondis d'abord que j'y consentais, raconta-t-elle, à condition que Mademoiselle de Tervire en fût d'accord et que j'en avertirais. Là-dessus, il me pria instamment de n'en rien faire et après m'avoir demandé le secret. N'est-il pas cruel, me dit-il, que mon oncle, tout moribond qu'il est, épouse demain Mademoiselle de Tervire, pour la laisser veuve au bout de 6 mois peut-être, et maîtresse d'une succession qui m'appartient comme à son héritier naturel. Mon projet est donc de le détourner de ce mariage, qui m'enlève un bien dont je ferai sûrement un meilleur et plus digne usage que cette petite coquette qui la dépenserait en vanité. Vous y gagnerez vous-même, et voici toujours, avec la bague, un billet de 1000 écus que je vous donne, et qui, en attendant mieux, vous sera payé dès que le baron aura les yeux fermés. Il n'est question que de me cacher ce soir, pendant qu'on soupera dans le cabinet de la chambre où Mademoiselle de Tervire couchera, et 1 heure après, c'est-à-dire entre 00h et 1h, d'aller dire à Madame de Saint-Hermière qu'on a entendu bruit dans cette chambre, afin qu'elle y vienne avec le baron, qui, me trouvant là avec la jeune personne, ne doutera pas que nous nous aimions tous deux et renoncera à l'épouser. Voilà tout. La bague et le billet me tentèrent, je le confesse, ajouta la femme de chambre. Je me rendis. Je l'introduisis dans le cabinet, et non seulement le mariage en a été rompu, mais ce que je me reproche le plus, et ce qui m'oblige à une réparation éclatante, c'est le tort que j'ai fait par là à Mademoiselle de Tervire, dont la réputation en a tant souffert et à qui je vous prie tous de demander pardon pour moi. Les témoins de cette scène la répandirent partout, et quand il ne serait pas arrivé davantage, c'en était assez pour me justifier. Mais il restait encore une coupable à qui Dieu, dans sa miséricorde, voulait accorder le repentir de son crime. Je parle de Madame de Saint-Hermière, qui, le lendemain même de ce que je viens de vous dire, et en présence de sa famille, de ses amis et d'un ecclésiastique qui l'avait assisté, remit un paquet cacheté et écrit de sa main à M. Villot, qu'elle avait envoyé chercher, le chargea de l'ouvrir, d'en publier, d'en montrer le contenu avant ou après sa mort, comme il lui plairait, et finit enfin par lui dire « Oh, j'aurais volontiers fait presser Mademoiselle de Tervire de venir ici, mais je ne mérite pas de la voir. C'est bien assez qu'elle ait charité de prier Dieu pour moi. Adieu, monsieur. Retournez chez vous et ouvrez ensemble ce paquet qui la consolera. Monsieur Villot sortit en effet, revint vite au logis, où, conformément à la volonté de cette dame, nous lûmes le papier qui avait laissé pour le moins autant de curiosité que d'étonnement à ce qu'avait entendu ce que Madame de Saint-Hermière avait dit en le remettant à Monsieur Villot. Et voici, ou à peu près, et en peu de mots, ce qu'il contenait. Prêt à paraître devant Dieu et à lui rendre compte de mes actions, je déclare à Monsieur le baron de Selcourt qu'il ne doit rien imputer à Mademoiselle de Trévire de l'aventure qui s'est passée chez moi et qui a rompu son mariage avec elle. C'est moi et une autre personne, qu'elle ne nommait point, qui avons faussement supposé qu'elle avait de l'inclination pour le neveu de Monsieur le baron. Ce rendez-vous que nous avons dit qu'elle lui avait donné la nuit dans sa chambre ne fut qu'un complot concerté entre cette autre personne et moi pour la brouiller avec Monsieur de Sercourt. Je meurs pénétré de la plus parfaite estime pour la vertu de Mademoiselle de Telvire, à qui je l'ai nuit que dans la crainte du tort que cette autre personne menaçait de me faire à moi-même si j'avais refusé d'être complice. Il me serait impossible de vous exprimer tout ce que cet écrit me donna de consolation, de calme et de joie. Vous en jugerez par l'excès de l'infortune où j'avais langui. Monsieur Villot alla sur le champ lire et montrer ce papier partout, et d'abord à Monsieur de Sercourt, qui partit aussitôt pour venir me voir et me faire des excuses. Enfin, tout le monde revint à moi. Les visites ne finissaient point. C'était à qui me verrait, à qui m'aurait, à qui m'accablerait de caresse, de témoignages d'estime et d'amitié. Tous ceux qui avaient connu ma mère lui écrivirent. Et l'abbé, devenu à son tour l'exécration du public aussi bien que de son oncle, se vit forcé de sortir du pays et de fuir à 30 lieues de là, dans une assez grosse ville, où 2 ans après, on apprit que sa mauvaise conduite et ses dettes l'avaient fait mettre en prison, où il finit ses jours. La femme de chambre de Madame de Saint-Hermière ne mourut point. Cette dame elle-même survécut à son écrit, qui m'avait si bien justifié, et se retira dans une petite terre écartée, où elle vivait encore quand je sortis du pays. Le baron de Sercourt, que je traitais toujours fort poliment partout où je le rencontrais, voulut renouer avec moi et proposa de conclure le mariage, mais je ne pus plus m'y résoudre, il m'avait trop ménagé. J'avais alors 17 ans et demi, quand une dame que je n'avais jamais vue et qui était extrêmement âgée arriva dans le pays. Il y avait au moins 55 ans qu'elle l'avait quittée, et elle y revenait, disait-elle, pour y revoir sa famille et pour y finir ses jours. Cette dame était une sœur de feu, Monsieur Tervire, mon grand-père, qu'un jeune et riche négociant avait épousé dans notre province, où quelques affaires l'avaient amenée. Il y avait bien 35 ans qu'elle en était veuve, et il ne lui était resté qu'un fils, qui pouvait bien en avoir 40. Je ne saurais me dispenser d'entrer dans ce détail, puisqu'il doit éclaircir ce que vous allez entendre, et que c'est d'ici que les plus importantes aventures de ma vie vont tirer leur origine. Vous m'avez vu rejeté de ma mère dans mon enfance, manquant d'asile et maltraité de mes tantes dans mon adolescence, réduit enfin à me réfugier dans la maison d'un paysan, car mon fermier en était un, qui me garda 5 années entières, à qui j'aurais été à charge par la médiocrité de ma pension, chez qui même je n'aurais pas eu le plus souvent de quoi me vêtir sans son amitié pour moi et sans sa reconnaissance pour mon grand-père. Me voici à présent parvenu à l'âge de la jeunesse. Voyons les événements qui m'y attendent. Cette dame dont je viens de vous parler, ne sachant plus où se loger en arrivant, ni qui pourrait la recevoir depuis la mort de mon grand-père, s'était arrêtée dans la ville la plus prochaine et de là avait envoyé au château de Thervire, tant pour savoir par qui il était occupé que pour avoir des nouvelles de la famille. On y trouva Thervire, ce frère cadet de mon père, qui depuis 2 ou 3 jours y était arrivé de Bourgogne, où il vivait avec sa femme, dont je ne vous ai rien dit, et qui y avait ses biens, et où le peu d'accueil qu'on avait toujours fait à ce cadet dans nos cantons, depuis le désastre de son aîné, il avait comme obligé de se retirer. Je vous ai déjà fait observer que la dame en question avait un fils, et il faut que vous sachiez encore que ce fils, à qui, comme un riche héritier, elle avait donné toute l'éducation possible, et que dans sa jeunesse, elle avait envoyé à Saint-Malo pour y régler quelques restes d'affaires, il était devenu amoureux de la fille d'un petit artisan, fort vertueuse et fort raisonnable, disait-on, mais qui avait une sœur qui ne lui ressemblait pas, une malheureuse aînée qui n'avait de commun avec elle que la beauté, et qui pisait, dont la conduite avait personnellement déshonoré le père et la mère qui la souffraient. Son autre sœur, malgré cet opprobre de sa famille, n'en était pas moins estimée, quoique la plus belle, et ce ne pouvait être là que l'effet d'une sagesse bien prouvée et bien exempte de reproches. Quoi qu'il en soit, le fils de Madame d'Ursan, c'était le nom de la dame dont il s'agit, éperdu d'amour pour cette aimable fille, fit à son retour de Saint-Malo tout ce qu'il put auprès de sa mère pour obtenir la permission d'épouser sa maîtresse. Madame d'Ursan, que quelques amis avaient informé de tout ce que je viens de vous dire, frémit d'indignation aux instances de son fils, s'emporta contre lui, l'appela le plus lâche de tous les hommes s'il persistait dans son dessein qu'elle traitait d'horrible et d'infâme. Son fils, après quelques autres tentatives qui furent encore plus mal reçues, bien convaincu à la fin de l'impossibilité de gagner sa mère, acheva sans bruit de perdre le peu de raison que l'espérance de réussir lui avait laissé, ferma les yeux sur tout ce qui allait sacrifier à sa passion et résolut froidement sa ruine. Il trouva le moyen de voler 20 000 francs à sa mère, partit pour Saint-Malo, rejoignit sa maîtresse, qu'il abusa par un consentement qui paraissait être de sa mère, dont il avait contrefait l'écriture, eut le tort de l'épouser avant que Madame d'Ursan, qui s'aperçut trop tard de son vol, pût y mettre obstacle, et la força ensuite de se sauver avec lui pour échapper aux poursuites de sa mère après lui avoir avoué qu'il l'avait trompée. 3 ou 4 ans après, il avait écrit 2 ou 3 fois de suite à Madame d'Ursan, qui pour toute réponse se repentir qu'il marquait avoir de sa faute, lui fit bander à son tour qu'elle ne voulait plus entendre parler de lui et qu'elle n'avait que sa malédiction à lui donner. D'Ursan, qui connaissait sa mère et qui se jugeait lui-même indigne de pardon, désespéra de la faire changer de sentiment et cessa de la fatiguer par ses lettres. Son mariage aurait sans doute été déclaré nul s'il avait voulu. Son âge, l'extrême inégalité des conditions, l'infamie de ces petites gens avec lesquels il s'était allié, le crédit et les richesses de sa mère, tout était pour lui, tout l'aurait aidé à se tirer d'affaire s'il avait seulement commencé par se séparer de cette fille, et quelques personnes à qui il avait d'abord confié le lieu de sa retraite lui proposèrent 2 ou 3 mois après son évasion, persuadé qu'il n'y répugnerait pas, d'autant plus qu'il sentait alors tout le tort qu'il s'était fait. Quelle apparence, d'ailleurs, qu'après ces extravagances passées, qui montraient si peu de cœur, il fut de caractère à s'effrayer d'une mauvaise action de plus. Celle-ci l'arrêta, cependant. On ne connaît rien aux hommes. Et cet insensé, qui s'était si peu soucié de ce qu'il se devait à lui-même, qui n'avait pas hésité d'être si lâche à ses dépens, refusa tout net de l'être aux dépens de sa femme, pour qui sa passion était déjà éteinte. De sorte que tout le monde l'abandonna, Il y avait plus de 17 ans qu'on ne savait ce qu'il était devenu. Tervir le cadet, qui avait autrefois été instruit d'une partie de ce que je vous dis là par son père, à qui Madame d'Ursan l'avait écrit, présuma que son fils était mort, puisqu'elle revenait finir ses jours dans sa patrie, ou du moins se flatta qu'il ne se serait pas réconcilié avec elle, et qu'en cultivant ses bonnes grâces, il pourrait encore être substitué à la place de ce fils, comme il l'avait été à celle de mon père. Plein de cette espérance flatteuse et déjà tout ému de convoitise, le voilà qui part pour aller trouver sa tante, et qui, dans sa petite tête, au cœur il avait peu d'esprit, projette en chemin les moyens d'envahir la succession. Moyens aussi sots que lui, et qui se terminèrent, comme on a jugé depuis, à prodiguer les respects, les airs d'attachement, les complaisances et toutes sortes de finesses de cette espèce. Ce fut là tout ce qu'il put imaginer de plus adroit. Mais malheureusement pour lui, il avait affaire à une femme de bon sens, d'un caractère simple et tout uni, que ses façons choquèrent et qui comprit tout d'un coup à quoi elle tendait et qu'elle dégoûtèrent de lui. Il lui offrit son château, qu'elle refusa, mais comme il ne l'habitait point, qu'il avait fixé sa demeure ailleurs et bien loin de là, qu'elle y avait été élevée, et elle s'offrit de l'acheter avec la terre de Tervir. Il ne demandait pas mieux que de s'en défaire, et un autre que lui en aurait généreusement laissé le marché à la discrétion d'une tante aussi riche, aussi âgée, et dont il pouvait même arriver et qu'il hérita, et c'eût été là sûrement une marque de zèle et de désintéressement bien entendu. Mais les petites âmes ne se fit à rien. Il ne s'était préparé qu'à des respects sans conséquence. Il était d'ailleurs tenté du plaisir présent de vendre bien cher, et ce neveu, par pure avarice, oublia les intérêts de son avarice même. Il céda à son château, après avoir honteusement chicané sur le prix avec Madame d'Ursan, qu'il acheta plus qu'il ne valait, mais qui en avait envie et qui le lui paya sur le champ. Tout l'avantage qu'elle eut dans cette occasion par-dessus une étrangère, ce fut d'être rançonnée avec des révérences, avec des tons doux et respectueux, à la faveur desquels il croyait habilement tenir bon sur le marché sans qu'elle y prît garde. Dès le lendemain, elle alla loger dans le château, qu'elle le pria sans façon de lui laisser libre le plus tôt qu'il pourrait, et dont il sortit 8 jours après pour s'en retourner chez lui, fort honteux du peu de succès de ses respects, de ses courbettes, dont il vit bien qu'elle avait deviné les motifs, et qu'il avait servi qu'à la faire rire, sans compter encore le chagrin qu'il eut, de me laisser dans le château où le bonhomme Villot, qui connaissait cette dame, m'avait amené depuis 5 ou 6 jours, et où je plaisais, où mes façons ingénues réussissaient auprès de Madame d'Ursan, qui commençait à m'aimer, qui me caressait, à qui je m'accoutumais insensiblement, que je trouvais en effet bonne et franche, avec qui j'étais le lendemain plus à mon aise et plus libre que la veille, qui de son côté prenait plaisir à voir qu'elle me gagnait le cœur et qui, pour surcroît de bonne fortune pour moi, avait retrouvé au château un portrait qu'on avait fait d'elle dans sa jeunesse, à qui il est vrai que je ressemblais beaucoup et qu'elle avait mis dans sa chambre et qu'elle montrait à tout le monde. Comme on m'appelait communément la belle Trévir, il s'ensuivait de ma ressemblance avec le portrait de Madame d'Ursan qu'on ne pouvait louer les grâces que j'avais sans louer celles qu'elle avait eues. Je ne faisais point d'impression qu'elle n'eût faite. Elle aurait inspiré tout ce que j'inspirais. C'était été la même chose, témoin le portrait, et cela la réjouissait encore, toute vieille qu'elle était. L'amour-propre tire parti de tout. Il prend ce qu'il peut, suivant l'âge et l'état où nous sommes. Et vous jugez bien que je n'y perdais pas moi à lui faire tant d'honneur et à me montrer ainsi ce qu'elle avait été. Voilà dans quelles circonstances Tervire repartit pour la Bourgogne. Monsieur Villot, qui croyait ne m'avoir laissé au château que pour une semaine ou deux, revint me chercher le lendemain du départ de mon oncle. Mais Madame d'Ursan, qui ne m'avait retenu aussi que pour quelques jours, n'était plus d'avis que je la quittasse. « Parle donc, ma petite, me dit-elle en me prenant à part, t'ennuies-tu ici ?»« Oh non, vraiment, ma tante, répondis-je, mais en revanche, je pourrais bien m'ennuyer ailleurs. »« Eh bien, reste, reprit-elle, tu seras chez moi encore plus honnêtement que chez Villot, je pense. »« Mais c'est ce qui me semble, lui dis-je en riant. »« Eh bien, j'écrirai donc demain à ta mère que je te garde, ajouta-t-elle. » Entre nous, tu n'étais pas là dans une maison convenable à une fille née, ce que tu es. Mademoiselle de Tervire en pension chez un fermier. Voilà qui est joli. Plus joli que d'être pensionnaire d'un pauvre vigneron. Comme j'ai pensé l'être, ma tante, lui répartis-je, toujours en badinant. Je le sais bien, ma petite, me répondit-elle. On me conta avant-hier toute ton histoire et l'obligation que tu as au bonhomme Villot, que j'estime aussi bien que sa femme. Je suis instruite de tout ce qui te regarde, et je ne dis rien de ta mère, mais tu as de fortes aimables tantes. Quelle parenté! Oh, elles sont venues me voir et je leur rendrai leur visite, il faudra bien. Tu seras avec moi, c'est un plaisir que je veux me donner. Mon fermier entra pendant qu'elle me tenait ce discours. « Venez, monsieur Villot, lui dirait-elle. Je parlais de vous tout à l'heure. Vous veniez pour amener Tervire, mais je la retiens. Vous ne me la cédez volontiers, n'est-ce pas? Et je demanderai à la marquise qu'elle est chez moi. Comment vous est-il dû pour elle? Dites-le, je vous paierai sur le champ. »« Eh, mon Dieu, madame, cette affaire-là ne presse pas, reprit monsieur Villot. Pour ce qui est de notre jeune maîtresse, il est juste que vous l'ayez, puisque vous la voulez. Je ne saurais dire non, et dans le fond, j'en suis bien aise à cause d'elle, qui sera avec sa bonne tante, mais cela ne m'empêchera pas que je m'en retourne triste. Mais nous allons être bien étonnés, madame Villot et moi, de ne la plus voir dans la maison, car, sauf votre respect, nous l'aimions comme notre enfant. « Et nous l'aimerons toujours de même, ajouta-t-il, presque la larme à l'œil. « Et votre enfant vous le rend bien, lui répondis-je, aussi tout attendri. Oh, « Vous ne la perdez pas, vous la reviendrez voir quand il vous plaira, dit madame d'Ursan, que notre attendrissement touchait à son tour. « Nous profiterons de la permission, répondit monsieur Villot, que j'embrassais sans façon et de tout mon cœur, et que je chargeais de 1000 amitiés pour sa femme, que je promis d'aller voir le lendemain. Après quoi, il partit.